présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Autrement, je raconte tes projets. François est rouge de colère et de honte. Ne lui répond pas. Stéphane dit : Venez, jeune homme, je vais vous accompagner jusqu'à la sortie de la propriété. Jean-Philippe demande : Est-il vrai que François a une belle voiture ? Oui. Il vous l'a dit ? Oui. Il en a de la chance. Au revoir, monsieur. Et il ouvre le portail. Stéphane le referme. et retourne vers François, qui est resté assis au salon. Il s'assoit en face de lui.
Drôle de type, et qui semble savoir des choses sur toi. Comment tu l'as connu ?
François lui dit, je ne le connais pas vraiment. Nous ne sommes ni amis ni rien. J'ai rencontré comme ça dehors.
Stéphane lui dit, il faut faire attention à ses fréquentations.
François est furieux. Stéphane se demande ce que c'est que ce Jean-Philippe.
Et puis,
qui connaît François, il se dit, en fait, qu'il ne le connaît même pas, François. Et il ne parle plus de cette visite. Mais un drame, une énigme, une menace plane sur eux. Pour l'un, c'est le passé de l'autre, et pour l'autre, c'est l'avenir. La menace de l'un, c'est la peur de savoir des choses, et pour l'autre, le chantage. François se dit, quel dommage, on était si bien. Le lendemain matin, qui sont dans le jardin à prendre leur petit déjeuner, ils ont passé la nuit chacun dans leur chambre. Ils ne couchent ensemble que très peu de temps, parce que la plupart du temps, Stéphane entre très tard et que François est déjà endormi, il ne veut pas le réveiller et puis c'est par respect pour lui. François demande, est-ce que tu as toujours confiance en moi ? Stéphane le regarde surpris et lui demande, pourquoi cette question ? François lui dit, parce que j'ai peur de perdre ta confiance et ton affection.
Si je n'avais pas confiance en toi, je ne serais pas chez moi des jours et des jours entiers seul. Ne te fais pas de soucis.
François lui dit, merci. Après-midi du même jour, François s'est assoupi sur la terrasse. Il a rêvé qu'était près une cascade, immense et belle cascade, dans un décor magnifique. Il était avec des gens qui étaient en vacances. Avec eux, il longeait un chemin qui suivait un torrent, un grand torrent, plein de cascades, c'était magnifique. Lorsqu'il s'est réveillé, s'est souvenu de ce rêve. Il n'est pas content d'avoir rêvé. Parce qu'à chaque fois qu'il rêve de l'eau, il apprend de mauvaises nouvelles. Quelquefois, c'est mieux de rêver la neige.
parce que la neige, c'est bon. François ne sait pas pourquoi. Ne croit pas aux rêves, mais il sent que certains rêves lui prédisent certaines choses, comme la neige, les dents, l'eau. Pourquoi ? Et comment un rêve peut-il donner l'avenir ? Il ne sait pas. Il a constaté, c'est tout. Pourtant, il n'a pas toujours fait attention à ça. Il sait que le rêve, c'est le cerveau qui se détend et laisse aller à l'aventure l'imagination. Il se déconnecte de la vie réelle et se laisse aller. Alors, son téléphone portable vient de sonner. Il le prend. Allô ? Salut, c'est moi, Jean-Philippe. François lui dit, je ne veux plus entendre parler de toi. Laisse-moi tranquille. Je ne peux pas. Si tu ne me donnes pas quelque chose, je dis tout à Stéphane. Et que tu as voulu le séduire. Ne te crois pas. Il y a déjà des soupçons. Alors, tu me laisses rentrer chez lui et on fauche plus de choses. On lui dit, c'est impossible. Et puis réfléchis, Duo. Il nous connaît tous les deux. Et il nous fera rechercher. Enfin, je lui dis, tu as raison. Alors c'est toi qui vas prendre quelque chose de précieux et me l'apporter. Sinon, je lui dis tout. Je vais à son bureau de son siège. Il me croira, parce qu'il y a les factures téléphoniques où il est marqué dessus que nous téléphonons souvent. Et si ça ne suffit pas, je connais un client qui m'aime bien et qui dira que nous travaillons ensemble. Il va en savoir plus et demandera ton casier judiciaire. Comme il fait partie du groupe Fanban, il l'aura. Et comme rien s'efface, même les affaires étouffées, alors, ne suis-je pas un petit génie ? François lui dit, un petit salaud plutôt. Je te connais même pas. Et tu me... François lui dit, un petit salaud plutôt. Je te connais même pas. Et tu me fais un coup pareil. Jean-Philippe lui dit, comment? Et qu'est-ce que tu faisais à me draguer? Et puis pourquoi? Hein? As-tu tout de suite dit oui? Je t'ai proposé de draguer le vieux. Il le sent, mon œil. J'ai tout de suite dit oui. Tu veux garder pour toi tout. François lui dit, non. Tu oublies une chose. C'est qu'il y a les sentiments. Et moi, Stéphane, je tiens beaucoup à lui. C'est un brave homme. Bien sûr, il te fait vivre dans le luxe. Et te paye une magnifique voiture. Allez. Tu m'apportes quelque chose de bien et je te laisse. À ce soir, 22h30, disons, vers l'entrée principale de la gare Montparnasse. Sinon, tu n'as plus qu'à préparer tes bagages. On se lui dit, il va le voir. Si je me fais prendre, il verra qu'il manque quelque chose. Débrouille-toi. Et puis il y en a tellement de choses. Un client m'a parlé d'un poignard en or. Tu pouvais me le trouver, il me le paye bien. Prends quelque chose de bien,
qui sont petits, au fond d'un tiroir. Mais attention, de prix. Après, tu me laisses tranquille, nous verrons. Et il raccroche. François est furieux. Ce salaud, il me le paiera. Je me vengerai. Tu vas voir, fumier. Stéphane est absent. Il ne rentrera que très tard dans la nuit, peut-être même à 5 heures du matin. Il est allé au Népal. François, toute la journée, tourne en rond dans la maison. De temps en temps, il ouvre un tiroir, le referme de suite. Puis, au fur et à mesure que le temps avance, il lui en ouvre de plus en plus, des placards aussi. Regarde de plus en plus longtemps, il soupire, il se dit comment faire. Le soir, il prend son dîner seul dans la salle à manger. Le domestique dessert. Puis, demande s'il n'a besoin de rien.
Non, merci. À demain, monsieur. À demain.
Il se retrouve seul dans cette grande maison. Il est 21h30. Il cherche encore. Il ouvre le tiroir d'une commode. Il y a un petit coffret de cuir rouge. L'ouvre et en sort un petit poignard ciselé en or. Le manche est en or plutôt. Ferme le coffre, le met dans sa veste et ferme le tiroir. Sort de la pièce. Et de la maison. Un portail qui veut ouvrir pour sortir sa voiture. Le portail s'est ouvert. C'est Stéphane. Le taxi qui l'a ramené s'est éloigné. Stéphane demande, tu allais sortir? Oui, en fait, oui. Tu es de retour?
Oui, j'ai pu prendre un avion plus tôt. J'avais hâte de rentrer. Et toi, tu allais où?
Oh, rien. Je sortais comme ça.
Stéphane prend François pour l'embrasser et il fait lâcher le coffre de François qu'il tenait.
Tiens, qu'est-ce que c'est?
Le coffret plutôt. Il se penche, voit le coffret, l'ouvre,
lui demande, qu'est-ce que tu allais faire avec ça?
François rouge de honte, attristé, ne dit rien. Stéphane le prend par le bras et lui dit,
viens, nous allons discuter tous les deux.
Et il amène François au salon. Il le fait asseoir dans un fauteuil. Le coffre sur une table basse et s'assoit en face de lui. Il lui dit « Ce coffre est le seul souvenir de mon père. C'est une pièce de collection qui coûte une fortune. Pièce unique donnée par jeune tout à mon père pour le remercier de son travail et de son amitié. Jeune tout l'avait dans sa famille depuis des lustres. Voyez, ou quelque chose comme ça, qu'ils lui ont offert à leur famille, les sept soleils. Je tiens beaucoup à cet objet, pas à cause de son prix, qui est inestimable, mais parce qu'il appartenait à mon père. Tu comprends? Tu aurais pu emporter n'importe quoi, mais ça... François est malheureux, il ne dit rien. Stéphane continue. Pourquoi est-ce que tu m'as pris ça? Est-ce que tu n'as pas tout? François lui dit. Oui, je te faisais confiance. Tu as tout. Tu m'as volé. Pourquoi? Le jeune homme qui est venu la dernière fois avait raison lorsqu'il m'a dit que je ne savais rien de toi. Qui es-tu? Ça fait beaucoup de mal de penser que tu as fait tout ça pour m'endormir et me voler. On se lui dit. Non, c'est faux. Je t'assure. Je t'aime vraiment. Je t'assure. Stéphane lui dit, arrête de mentir. Tu me dégoûtes. Moi, pour te punir, j'ai décidé. C'est que tu t'en ailles. Je n'ai plus confiance en toi. François lui dit, non. Je t'en prie. Stéphane lui dit. Tu vas t'en aller. Je ne veux plus te revoir. Et je ne chercherai plus à te revoir et savoir qui tu es vraiment. Pars avec la voiture. Stéphane. Mais c'est l'autre qui m'a forcé. Il voulait me faire chanter. En allant te voir et te dire qui j'étais. Moi, je ne voulais pas. J'avais peur qu'il te parle. C'est lui qui m'a forcé à te voler cette chose. Stéphane lui dit, ça suffit. Il a les larmes aux yeux. Il se lève et lui dit, va-t'en ou j'appelle la police. Stéphane, je t'en prie, c'est moi qui souffre. François se lève, prend la voiture. Je ne veux plus avoir celle-là. François baisse la tête et quitte la pièce. Tristement. Il descend les escaliers tristement. Il a entendu un grand cri et un bruit. Vite, il remonte les escaliers. Et là, il voit, horrifié, au salon, à terre, sur le dos, les bras écartés, la bouche grimaçante, tache de sang sur la poitrine et le poignard planté dedans. François se penche. Stéphane. Stéphane lui dit:
je vais mourir. Va-t'en. Il ne faut pas que la police te prenne. Prends tes affaires. Je ne veux pas que l'on te voie ici et que l'on sache que tu es là. Oh François, je t'aime.
Oh Stéphane.
Oh, vite. Oh.
Il est mort. François, horrifié, regarde son ami. Il pleure. Il reste un moment comme ça penché sur lui. Ne comprenant pas bien que son ami est mort. Puis il a entendu un petit bruit. Ça l'a fait sursauter, paniquer. Se retourne et se dit qu'il doit s'en aller. Il sort du salon. Va à sa chambre. Ouvre le placard pour prendre ses affaires. Et dans une valise. Et quitte la maison en vitesse. Vite, il va ouvrir le portail. Va vers sa voiture, entre dedans et la met en route. Quitte la propriété. Il file sur les routes, furieux, horrifié et furieux. Arrivé à Paris, il trouve un magasin, entre et ressort, puis va à son rendez-vous. Arrivé, il Il arrête sa voiture dans une petite rue près de la gare Montparnasse. La petite rue est parallèle à la gare. Il retrouve Jean-Philippe. Il lui dit avec le sourire, « Salut, salut, je vois que tu vas mieux. »« Oui, je vais tout à fait bien. » Jean-Philippe lui demande, « Tu as la chose ?»« Oui, donne. » »« Et dans ma voiture, allons-y. » Et il le mène à sa voiture. « Tu donnes ?» On va pas regarder ça ici. Entre dans la voiture. Il entre dans la voiture. Alors, François sort de son vide-poche un coffret rouge. Il ouvre. En sort un poignard. Et d'un geste brusque, lui en donne un coup dans le cou. Le blessé essaye de sortir de la voiture. Mais, d'un geste brusque, il a fermé la porte, les portières. Il m'en donne plusieurs coups. Le sang gicle. Jean-Philippe n'a pas pu se défendre. Il est mort. Le sang a giclé partout. Vite, François met la voiture en route. Il file, file, avec le corps plein de sang près de lui. Il roule, roule. Petite route de campagne. Est en rose campagne. Elle va dans les champs, la route. Il a arrêté la voiture. En rose campagne. Sort le corps pour le mettre dans un bois qui est près de la route. Il porte le corps sur son dos. À travers champs. Retourne à la voiture. Rentre dans sa voiture. File. Prend une route qui longe la Seine. Jusqu'à ce qu'il trouve un coin tranquille pour nettoyer la voiture. il a acheté un produit d'état-sang très puissant. Produit d'entreprise professionnelle, Pontois Plus. Éclairé par la lampe torche, nettoie sa voiture. Puis une fois que tout est fait, qu'on ne voit plus rien d'apparent, il se remet en route. Il décide de lui garder la voiture parce qu'elle a été achetée au nom de son ami et puis il l'aime beaucoup. Mais il a un risque, c'est d'être repéré par la police à cause de son numéro et qu'elle sache qu'elle a été achetée par Stéphane et que l'on pense qu'il l'ait tuée. Déjà avec tout ce qu'il a comme affaire, il est fatigué, il s'est dit qu'on verra bien et décide de trouver un coin pour se reposer. Il file, ça le détend. Le jour commence à se lever, s'arrête à une auberge pour prendre un petit déjeuner et reprend la route. Il ne sait pas où il va. Il file. La route est presque vide, il fait soleil et l'air est doux. François a la tête vide. Puis, épuisé, est arrivé à un village, un charmant petit village près de la Loire. Un village un peu en hauteur, bien boisé. Les maisons sont en pierre, bien fleuries. Il y a une place avec sa fontaine, son église et ses commerces. Le tout est charmant. François ne sait pas où il est. Il va arrêter sa voiture devant l'entrée de l'auberge. L'auberge se trouve sur la place. Il y a des enfants qui jouent, des personnes âgées qui sont assises à la terrasse à siroter. Ça semble calme et agréable. Il entre dans l'auberge. L'auberge est décorée campagnard, arc à carreaux blancs et rouges, du cuivre, des fleurs, table de bois, chaises robustes, quelques personnes à table. Une servante vient à lui. Elle est habillée en robe noire toute simple, blanche. Blonde, je veux dire. Elle a dans les 30 ans. Elle demande, vous désirez, monsieur? Il répond, me restaurer. Et il fait, veuillez me suivre. Elle le mène à une table près de la fenêtre, au rideau à carreaux blancs et rouges. Il y a sur le rebord de la fenêtre des géraniums. Elle lui montre la carte. Il a la tête qui tourne. Il ne sait pas. Il lui dit n'importe quoi. Il dit, bien, portée de campagne, chevreuil ou myrtille, pomme rôtie ou petit pois, en entrée salade. Ça vous va?
oui, merci. Et pour le dessert ?
Il lui dit,
non, merci. Et elle s'éloigne,
en se disant que ce mignon petit jeune a dû faire la fête toute la nuit. Comme il a une très bonne mine, c'est-à-dire très élégant, qu'il est bien habillé, il lui fait confiance.
Minutes plus tard, il a fini de manger. Il se sent mieux, mais fatigué. Demande à la servante s'il n'y a pas une auberge pour qu'il puisse se reposer un peu. Elle lui dit, mais nous faisons auberge, monsieur. Vous voulez une chambre? Pour combien de temps?
Je ne sais pas, peut-être une semaine ou plus.
Il lui dit, je vais voir avec le patron.
Et elle revient.
Et d'accord. Mais vous payez d'avance.
Tenez, je vais vous montrer la chambre. Venez.
Elle lui a montré une chambre. Et puis, elle l'a prise. C'est une chambre qui a une tapisserie beige, meublée campagnard. La pièce est assez grande. Ça vous plaît?
Oui, merci.
Il a payé la chambre et le repas. Il est retourné se coucher. Il a sommeil, fatigué, fait un somme sans rêve. Puis se réveille et décide, c'est d'attendre les événements. À Paris, comme chaque matin, entre dans la propriété la cuisinière, qui est une femme grande, forte, cheveux gris, elle a dans les 60 ans, habillée d'une robe grise. C'est son mari qui l'a déposée devant la propriété. Son mari est un gendarme du pays, qui a moustache, il est gros et rouge. Après s'être dit au revoir, en s'embrassant, elle lui dit,
ne rentre pas trop tard.
Il lui dit, ça dépend s'il n'y a rien ou s'il y a quelque chose. Tu sais très bien que ça se passe surtout la nuit. Les jeunes font les cons. C'est la nuit. Le jour, ça roupille sur des chaises pendant que le prof parle. Elle lui dit, ben, allez, je me sauve. Monsieur a dû rentrer de son voyage. Il va avoir faim. À midi, je vais lui préparer un lapin chasseur. Il lui dit, mais la chasse est fermée. Elle lui fait, idiot! Tu sais très bien que le martin chasse toute l'année et que tout le monde lui achète du gibier. Il chasse son frère en Dordogne toutes les semaines. Elle sort de voiture et va ouvrir le portail. Elle entre dans la propriété. Et ouvre la porte de la maison. C'est elle qui a les clés. Puis, va à la cuisine préparer le petit déjeuner.
prépare le petit déjeuner pour le petit maître. Et puis aussi pour le service. Une demi-heure plus tard, arrivent à la cuisine les domestiques, l'homme et la femme. L'homme dit bonjour et s'assoit à table. La femme fait bonjour, quelle belle journée, et s'assoit à table en face de l'homme. La cuisinière les sert. Puis elle s'assoit en face d'eux. Prend son café au lait. Domestique demande, il est rentré. Elle dit, je ne sais pas, il ne m'a pas encore appelé. Il doit encore dormir. Domestique demande, et l'autre? Elle lui dit, l'autre non plus, il n'a pas sonné. La bonne dit, j'espère qu'ils ne se lèveront pas trop tard parce que j'ai à changer les draps et à faire dégraisser les rideaux de chambre. Ça fait beaucoup. Domestique dit, oui, surtout qu'ils se servent que d'une seule chambre. La cuisinière fait, oh mon Dieu! La bonne lui dit, oh! Non, c'est ça depuis longtemps, pas la peine de faire celle qui ne sait pas. Moi, je suis vacciné. Je sais que chez les maîtres, il y a toujours des choses. Je refuse de dire et je ne dis rien. Je fais celle qui ne sait pas. Je ne le regarde pas non plus. La cuisinière dit, mais moi, je suis contre. Ma religion me l'interdit. La bonne lui dit, changez de religion, prenez la catholique. Elle accepte tout, du moment que vous vous confessiez. La bonne ouvre ses épaules. Le domestique dit, bon, eh bien, il va falloir commencer à travailler. La cuisinière lui dit, surtout que moi, je vais préparer un lapin chasseur ou myrtille. Domestique se lève. Bien, je vais commencer à inspecter les pièces pour voir ce qu'il y a à faire. Thank you. vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.